France Culture.
Question d'islam par Al Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons d'Ibn Khaldoun, cet immense historien, encore faut-il le représenter, et le présenter à nos amis auditeurs. Mais cette fois-ci, ce sera avec un autre historien contemporain. Et parmi les vivants, j'ai la faiblesse de croire qu'il est le, si ce n'est l'un des, mais le spécialiste de la pensée d'Ibn Khaldoun, c'est le professeur Gabriel Martinez-Gros. Professeur, bonjour.
Bonjour, Alain.
Je suis extrêmement heureux de vous recevoir pour parler, cette fois-ci, non pas nécessairement de l'homme, mais nous parlerons aussi d'Ibn Khaldoun, mais plutôt d'une anthologie de son œuvre, quelques morceaux choisis. En termes classiques, on parle d'une chrestomathie. Ce sont des thèmes choisis que vous avez bien voulu nous offrir dans votre récent ouvrage, puisqu'on ne dit pas dernier ouvrage, il y en aura d'autres qui vont suivre.
On peut l'espérer.
Et nous l'espérons vivement, eu égard à la qualité de cette présentation de l'œuvre khaldounienne. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Vous avez aussi co-dirigé l'ISM, qui est l'Institut d'études sur l'islam et des sociétés du monde musulman. Et vous avez écrit, composé de très nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de l'islam, à l'histoire des empires d'une manière générale, et aussi à la pensée d'Ibn Khaldoun, dont Arnold Toynbee disait, de mon point de vue en tout cas à juste raison, qu'aucun esprit, aucune civilisation ne fut capable d'élaborer l'équivalent avant l'Europe du 19e siècle. Alors, quelle est l'histoire de cette ontologie? Qui dit choisir, dit aussi renoncer. Vous avez choisi certains thèmes, peut-être forcément vous avez dû renoncer à d'autres.
Merci Raleb d'abord de m'avoir invité. Oui, c'est vrai, j'ai essayé de renoncer au moins possible des thèmes fondamentaux que Ibn Khaldoun évoque dans le premier volume de son histoire universelle, qui est ce qu'on appelle la Muqaddima, c'est-à-dire l'introduction en arabe. Et cette histoire est en fait l'explication théorique de ce qui va suivre, c'est-à-dire des six tomes d'histoire universelle que Ibn Khaldoun dispose après la Muqaddima. Et donc j'ai essayé de couvrir ce qui n'avait jamais été fait jusque-là, toute la Muqaddima, et en particulier ce qui est relativement moins fréquenté en général dans cette introduction universelle, c'est-à-dire les chapitres, on dirait aujourd'hui économiques. Hein, les chapitres sur la production, les chapitres sur la ville, les chapitres sur les prix, les chapitres aussi sur les sciences qui font partie chez Ibn Khaldoun de cette activité productive de ceux qu'il appelle les sédentaires, c'est-à-dire, nous dirions nous pratiquement dans des termes brutaux, les civilisés, hein, si vous voulez.
Alors, simplement, deux dates qui ponctuent sa trajectoire de vie pour nos amis auditeurs. L'homme est né le 27 mai 1332 à Tunis, mort le 17 mars 1406 au Caire. Le choix du Caire n'est pas anodin, parce que il lui fallait une ville qui fût à la hauteur de son savoir.
Voilà, voilà. Une ville, c'est la ville sédentaire, pour revenir sur ce terme que j'ai employé déjà il y a quelques instants, par excellence, c'est-à-dire la ville par excellence de la production, la ville par excellence de la concentration, à la fois démographique et productive. C'est une ville probablement de 300 000 habitants, malgré la peste, hein, au moment où il l'aborde, dans les années 1380, en 1382, en fait, il arrive quand il a, lui, exactement 50 ans, et il va y rester pratiquement jusqu'à sa mort en 1406, il meurt au Caire en 1406. Donc, effectivement, c'est la ville où il peut espérer trouver le plus grand nombre possible d'étudiants à cause de l'extraordinaire diversification des activités productives, des activités économiques et donc aussi des activités scientifiques. Toutes les disciplines scientifiques sont évidemment représentées au Caire et c'est ce qu'il va très probablement rechercher lorsqu'il quitte le Maghreb, en tout cas pour le Caire en 1382.
En faisant le deuil de sa vie trépidante et de ses activités politiques aussi, une bonne fois pour toutes, vous avez évoqué la peste, ça le caractérisera, ça caractérise sa vie tout le temps. Déjà celle de 1348 verra décimer ses professeurs, il dit qu'il en a perdu 16 maîtres.
Oui, absolument.
16 de ses maîtres, sa famille, sa propre mère aussi.
Son père.
Parlons maintenant, peut-être en quelques mots, de l'histoire comme une discipline philosophique.
Alors voilà, ça, c'est le premier texte d'ailleurs de cette anthologie où j'ai essayé, comme lui-même le fait évidemment au début de son de sa Mukaddima, de situer l'histoire parmi les disciplines du savoir. La plupart du temps, l'histoire étant hier comme aujourd'hui une discipline du témoignage. L'histoire est placée dans ce que les Arabes, les musulmans du Moyen-Âge, appellent les sciences narqlia, c'est-à-dire les sciences de la transmission. Ce sont des sciences qui se fondent précisément sur l'exactitude du témoignage, et ce sont par excellence les sciences religieuses, bien sûr. Ce qui fait que l'histoire est classée en général parmi les sciences religieuse par les historiens arabes, puisqu'elle repose sur les mêmes critères de vérité, en quelque sorte, que les sciences religieuses, c'est-à-dire le témoignage. Et Ibn Khaldoun dit que non, dit que c'est avant tout une science philosophique, c'est-à-dire une science qui repose sur le raisonnement et non pas sur le témoignage, tout simplement, il faut dire pourquoi, hein. Tout simplement parce que les témoignages ne sont plus sûrs. C'est-à-dire que le monde musulman est à ce point disloqué que la qualité du témoignage, la qualité de la transmission n'est plus assurée. Et dans la mesure où la qualité du témoignage et de la transmission n'est plus assurée, il ne reste plus qu'une seule manière de connaître la vérité, ce sont les règles universelles que la raison peut déduire. Voilà pourquoi la raison est privilégiée par rapport au témoignage. Elle est privilégiée comme un pis-aller, parce que le témoignage ne marche plus.
Hein. Néanmoins, je ne m'empêche pas de vous dire qu'il a consacré à sa rencontre avec Tamerlan le quart de ce qui est présenté sous forme testimoniale. Donc il laisse la part du témoignage, puisqu'il parle de lui et de cette rencontre, il lui laisse une bonne part dans ce qu'il relate de cette fin de vie en ce qui le concerne et de cette présentation de l'histoire de l'Orient ou du Proche-Orient, comme on dit maintenant, très mouvementée et compliquée.
Oui. Oui, oui, absolument. Alors, il a presque 70 ans, nous sommes en 1401, donc il a 69 ans quand il rencontre Tamerlan, qui a presque le même âge que lui, semble-t-il. On ne sait pas exactement quand Tamerlan est né, curieusement. On est beaucoup mieux renseigné sur la naissance d'Ibn Khaldoun que sur celle de cet immense personnage que fut Tamerlan.
À la fois cruel et aussi affiné pour les arts.
Absolument. Je veux dire que... Mais c'est là que Ibn Khaldoun se retrouve à l'aise avec sa pensée. Il n'est pas à l'aise avec le personnage dont il craint le pire, évidemment, mais il est à l'aise avec sa pensée, c'est-à-dire qu'il est tout à fait persuadé, et d'ailleurs il a raison, il ne verra pas l'accomplissement de cette prophétie, il est tout à fait persuadé que les fils, les petits-fils de Tamerlan seront aussi raffinés que lui et cruels. C'est-à-dire que c'est la même énergie. C'est ça qui est tellement fort chez Ibn Khaldoun. C'est la même énergie qui détruit l'humanité sous la forme des montagnes de têtes que Tamerlan avait l'habitude d'édifier.
Les fameuses tours,
les tours de
crâne.
De crâne qu'il avait l'habitude d'édifier aux portes des villes qui prétendaient lui résister. C'est cette même énergie qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle la civilisation ou la peinture, par exemple, timouride, puisque c'est auprès des descendants de Tamerlan, son fils, plus Chalor et ses petits-enfants, Ulugh Beg et d'autres, arrière-petits-enfants aussi, que la peinture islamique qui va se déployer en Iran, puis en Inde, puis en dans l'Empire ottoman entre le XVIe et le XVIIIe siècle, naît. Hein, je veux dire que c'est là que un des plus grands accomplissements artistiques du monde islamique va trouver sa place, va trouver son origine. C'est dans une aventure qui, au départ, est une aventure d'une violence monstrueuse.
Et Ibn Khaldoun lui-même ne verra pas Samarcande, cette autre métropole qui rivalisera avec le Caire, qui pour lui était déjà la ville par excellence. Cher Gabriel Martinez-Gros, passons maintenant donc à cette anthologie. Et dans un premier temps, en ce qui concerne l'approche théorique, notre ami Abdelrahman Ibn Khaldoun, théoriser l'État.
Alors, qu'est-ce que c'est que
l'État ? Ce n'est pas l'État westphalien.
N'est pas l'État westphalien. Mais c'est l'État impérial. Hein. C'est ce qu'il théorise. C'est bien sûr parce que c'est ce qu'il a en tête, l'Empire islamique, l'État tel qu'il fut sous les Omeyyades et les Abbassides, sous les deux grandes premières dynasties de l'islam. Mais c'est quelque chose, et ça il l'ignorait, c'est encore plus beau, qui peut s'appliquer à l'Empire chinois, pour l'essentiel, et dans une certaine mesure à l'Empire romain, en particulier à l'Empire romain des derniers siècles de son existence. Alors qu'est-ce que c'est que l'État, fondamentalement pour Ibn Khaldoun ? L'État, c'est d'abord un processus économique, c'est d'abord un ramasseur d'impôts. C'est-à-dire que dans une société agraire dont les progrès économiques sont extrêmement faibles, voire insignifiant, l'État est le seul mécanisme qui, par la levée de l'impôt, permet la concentration du capital. Et cette concentration du capital permet à la fois l'expansion de la demande, bien sûr, des élites, et permet l'investissement. Et ce double mouvement à la fois d'investissement et de demande des élites permet l'expansion des techniques, permet la naissance de nouveaux métiers, permet la division du travail, permet le raffinement des activités économiques, et donc permet une forme d'expansion qui, on va dire, pour reprendre un terme que notre actuel président aimait beaucoup, qui ruisselle peu à peu sur les classes inférieures, hein, bien sûr, dépendantes de cet investissement et de cette demande d'État, hein, puisque c'est naturellement l'État qui est, comme dit Ibn Khaldoun, le marché fondamental, c'est-à-dire que c'est l'État qui prend et qui redistribue les surplus maigres au départ de la production d'une société agraire, mais qui les augmente par le mouvement même de redistribution. Voilà, c'est fondamentalement ça l'État, sinon que malheureusement, tout repose sur l'impôt et sur la lourdeur relative de l'impôt, et que cet impôt est mal accepté, c'est-à-dire que l'État n'est pas séparable d'une forme de phénomène de violence, c'est-à-dire cette violence qui désarme les populations qui sont assignées aux fonctions fondamentalement pacifiques et pacifiées de la production, et qui, d'autre part, cette violence qui doit défendre ces populations qu'on a désarmées, qui sont par conséquent incapables de se défendre, contre des agressions étrangères, contre des agressions tribales en particulier. Donc, la violence est indispensable, mais elle est complètement clivée à l'intérieur de l'État, une infime minorité, parce qu'elle ne travaille pas, et il faut la payer, et cher en général. Une infime minorité est chargée de la violence, et aussi généralement de la souveraineté, parce que ceux qui ont la violence ont la souveraineté dans l'État, et une immense majorité est ainsi privée ou déchargée, comme vous voulez, si vous choisissez le sens positif ou le sens négatif, hein, privée ou déchargée de la violence, et par conséquent, elle est assignée à toutes les fonctions de production, y compris, bien sûr, aux fonctions de production intellectuelle, hein, ça va de soi, qui forment la fin de la Mukaddima. C'est pourquoi les sciences sont à la fin de la Mukaddima. C'est parce que les sciences sont la forme la plus élevée et la plus raffinée de la production.
avant lui Aristote et après lui un Locke ou un Rousseau constatent que les hommes ne peuvent pas vivre seuls, donc ils s'agrègent en groupe, et oui. C'est comme ça que les sociétés naissent. Et donc, pour Ibn Khaldoun, l'État qui essentiellement est l'impôt, il y a une ambivalence, c'est à la fois une humiliation pour ceux qui n'y consentent pas, mais aussi une source de protection. Donc, on l'accepte pour être tranquille, finalement. Et en revanche, il va y avoir une distinction entre, à laquelle il donne une définition particulière, ceux qui sont sédentaires et les bédouins. Et la bédouinité n'est pas nécessairement la ruralité.
La sédentarité, c'est relativement simple. Ce sont ces immenses majorités qui, dans des sociétés étatiques, bien entendu, dans des sociétés impériales, on va dire, hein, puisque nous avons pris l'exemple de l'Empire islamique ou de l'Empire romain finissant ou de l'Empire chinois, dans ces sociétés, ce sont les immenses majorités qui sont désarmées, qui sont soumises à l'impôt et qui sont fondamentalement affectées au travail. Et aux valeurs du travail. Hein. Ce sont un véritable monde de valeurs que ces sociétés sédentaires déploient, et un monde de valeurs qui est tout à fait différent de celui de la petite minorité dite bédouine par Ibn Khaldoun, qui assure les fonctions de violence. Mais en effet, comme vous le disiez très justement, le mot bédouin a un double sens. Soit il désigne les gens qui vivent hors de tout contrôle de l'État, et qu'ils soient nomades ou qu'ils soient paysans. Les Kabyles des montagnes d'Algérie, pour Ibn Khaldoun, sont des bédouins. Ce sont d'ailleurs, le mot arabe le dit,
ce sont les tribus au pluriel.
Voilà. Et donc, ce sont des bédouins, en ce sens-là, en ce sens qu'ils refusent toute imposition, dans tous les sens du terme, d'État, et donc il refuse toute taxation, et Ibn Khaldoun a eu l'occasion de voir à quel point ce refus était fort, puisqu'il a lui-même dirigé la petite principauté de Bouji, à proximité des montagnes kabyles, et il a dû organiser ce qu'on appelait déjà à l'époque des halkas, c'est-à-dire des expéditions en mouvement, pour lever l'impôt auprès des tribus. Donc ça, c'est une première définition du bédouin, celui qui refuse absolument l'État. Et la deuxième définition du bédouin, c'est presque le contraire, c'est celui qui en prend le contrôle, c'est-à-dire celui qui est convoqué par les autorités d'État pour assumer dans l'État les fonctions de violence et de protection de l'immense majorité sédentaire qui ne peut pas se défendre. Et donc le mot bédouin a un double sens, en effet. Soit les bédouins entrent dans le système de l'État et ils contracte une sorte de pacte faustien parce que, au fur et à mesure qu'ils vivent dans cette mouvance d'État, leur capacité de violence et leur capacité donc de défense des sédentaires s'affaiblit. Et donc, il faut renouveler, alors Ibn Khaldoun dit au bout d'un siècle à peu près, il faut renouveler ces capacités de violence, il faut que la société sédentaire reprenne un peu de poison violent pour retrouver des capacités de se défendre. Ou bien ils refusent complètement, et dans ce cas, ils vivent hors de l'histoire, tout simplement, heureux ou malheureux, dans une des sociétés en général extrêmement rudimentaires, mais ils vivent hors de l'histoire, et donc hors de la vie et de la mort. Et comme ils ne naissent pas à l'État, ils ne meurent pas non plus.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, nous parlons d'Ibn Khaldoun en ayant choisi quelques thèmes, quelques sujets de son œuvre considérable, le Livre des Exemples. Voilà. Mais on parle particulièrement des prolégomènes ou de l'introduction dans cette anthologie. Et pour cette deuxième partie, parlons un peu de solidarité, peut-être au singulier ou au pluriel. Durkheim, plus tard, 6 siècles plus tard, va distinguer les solidarités mécaniques des solidarités organiques, alors que pour Ibn Khaldoun, il n'y a que la solidarité mécanique, oui, et qui serait une forme de solidarité agnatique du lien du sang.
Absolument, absolument. Alors c'est là que Ibn Khaldoun se distingue le plus des penseurs politiques européens modernes, à partir de Locke, de Hobbes déjà, Rousseau, etc., du contrat social, hein, de tous les tenants du contrat social. Pour lui, d'abord, la brique fondamentale de la société, ça n'est pas l'individu. Alors que la plupart des penseurs européens ramènent la constitution de la société à l'individu, même si c'est de façon toute théorique, bien sûr. Hein. Rousseau ou Locke ou Hobbes n'ignorent pas qu'on n'a jamais vu des hommes isolés vivant dans des forêts ou comme Robinson Crusoe dans des îles désertes. Mais c'est de là qu'ils partent théoriquement. Hein. Alors que Ibn Khaldoun, lui, part de formes de société, c'est-à-dire de formes tribales, de formes claniques, de formes familiales, peu importe. Mais pour lui, il n'y a de solidarité réelle qu'à l'intérieur de ces formes tribales, familiales ou claniques. Et par conséquent, ce qui fait tenir ensemble des entités aussi gigantesques que les grands empires dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'Empire islamique, l'Empire romain, l'Empire chinois, avec des dizaines de millions d'habitants, ça ne peut pas être des solidarités. Hein, c'est-à-dire que il est hors de question d'y chercher la trace d'un contrat social. Le mot n'existe pas évidemment chez Ibn Khaldoun. Ces sociétés tiennent par une sorte de contrainte, de coercition. D'où l'existence nécessaire des bédouins dans la constitution de l'État, de la violence bédouine dans la constitution de l'État. Il n'y a pas moyen de se débarrasser pour Ibn Khaldoun de la violence. Il y a moyen de la
réguler,
séparer, de la réguler, de la repousser aux marges de la société, de faire en sorte que la société puisse fonctionner presque sans violence, du moins la société sédentaire, parce que précisément les marges la protègent contre la violence du monde extérieur et en particulier du monde tribal, mais il n'y a pas moyen de s'en passer totalement, en ce sens que on a besoin en effet de forces bédouines pour assurer la sécurité du monde sédentaire. Voilà, c'est une distinction très considérable. La deuxième, c'est que les Européens en général ont été obsédés par la toute-puissance de l'État. C'est le fameux Léviathan de Hobbes, et puis encore Max Weber, la violence, le monopole de la violence légitime de l'État, ou bien 1984, ou bien, enfin, vous trouveriez tant dans la littérature que dans la philosophie, 1000 exemples de cette peur de la toute-puissance de l'État dans la pensée européenne. Et Ibn Khaldoun pense le contraire. C'est-à-dire que ce qu'il craint, c'est la faiblesse de l'État. Ce qui fait que l'État se dissout peu à peu, c'est la faiblesse de des défenses bédouines qu'il a édifiées à ses confins. Lorsque ces bédouins se sédentarisent, c'est-à-dire lorsqu'ils adoptent de plus en plus, au contact des sédentaires qu'ils sont en train de protéger, les valeurs des sédentaires, en particulier, tout simplement, les valeurs du travail, les valeurs de l'inventivité, les valeurs, tout simplement, de la civilisation,
de l'art, du raffinement. Et parfois un début de luxe aussi.
Le luxe, exactement. Alors l'État s'en porte moins bien. C'est-à-dire que la civilisation s'en porte mieux et l'État s'en porte, paradoxalement, beaucoup moins bien. Et ce que Ibn Khaldoun craint, c'est l'affaiblissement de la violence de l'État, et non pas la surviolence de l'État, comme la plupart des penseurs européens.
J'ai cru comprendre, mais c'est pour ça que je vous interroge, cher Gabriel Martinez-Gros, que pour lui, ce n'est pas tant les confins ou les frontières de l'Empire ou de l'État qui sont en tant que telles importantes, ces frontières, dit-il, ce n'est pas la Grande Muraille pour l'Empire du Milieu ou le Limès pour l'Empire romain qui protège en quelque sorte ces empires, ce sont plutôt ces bédouins. Et il n'y a pas un en-deçà et un au-delà de ces marqueurs de frontières. Il n'y a pas un peuple qui vit en autarcie par rapport à ce qui était extérieur. Ce sont peut-être que des traces là, mais en réalité, ce sont plutôt ces bédouins qui assurent la protection de l'État.
Absolument.
Il ne faut pas qu'il se dissolve en copiant le modèle des sédentaires.
Absolument. L'État fonctionne d'autant mieux que les sédentaires et les bédouins sont chacun fidèles à leur système de valeurs, c'est-à-dire au courage et à une forme de violence chez les bédouins, à la pacification, au travail, au projet, à l'intelligence, à l'inventivité et au raffinement chez les sédentaires. Quand les choses sont bien séparées, l'État fonctionne bien, exactement comme les différences de potentiel électrique ou les différences de température dans la thermodynamique établissent des formes d'énergie. Et on pourrait définir le monde d'Ibn Khaldoun comme un monde anthropique, c'est-à-dire que petit à petit, ces différences de potentiel s'abolissent, et par conséquent, et le phénomène est évidemment
reproductible ou cyclique.
Cyclique, mais il n'est pas réversible. Je veux dire que il est impossible à des bédouins qui commencent à se sédentariser à cause du luxe et du raffinement
à redevenir rustres.
Et c'est ça qui est une des choses qui sépare par exemple Ibn Khaldoun de Machiavel et qui fait que Ibn Khaldoun est beaucoup plus profond, si je veux me permettre.
Ce qui marque là la profondeur de sa pensée,
de sa pensée,
sa perspicacité. Et avec cette dialectique prospérité-soumission, les sédentaires se soumettent bon gré mal gré avec le consentement à l'impôt et en même temps ils prospèrent.
Absolument. C'est grâce à cette soumission en effet que la société prospère, c'est-à-dire que plus le pouvoir est étranger à la société sédentaire qu'il gouverne, et mieux les choses fonctionnent, tout simplement parce que au début d'une dynastie, quand le prince, le souverain et ceux qui l'entourent sont encore très proches de la bédouinité d'où ils sont issus, leurs besoins sont très minces, et par conséquent l'impôt est extrêmement faible. Et la faiblesse de l'impôt est une sorte, voire même la restitution d'une partie de ce que la dynastie antérieure avait accumulé, avait thésaurisé à l'économie, représente une forme d'impôt négatif, en quelque sorte, par lequel le nouveau pouvoir, d'origine bédouine récente, stimule l'activité économique du monde sédentaire. Il stimule cette activité économique du monde sédentaire précisément parce qu'il ne ressemble pas au monde sédentaire, parce que ses besoins, ses valeurs ne sont pas celles de la société qu'il dirige. Et c'est dans ces conditions-là que la combinaison entre bédouins et sédentaires est la plus efficace, et en particulier la plus efficace économiquement, la plus efficace pour les sédentaires.
Et cette croissance économique entrera par la suite dans un cercle vertueux qui donne la prospérité à la société, et pour lui, c'est aussi le progrès de la civilisation.
Absolument. C'est le progrès de la civilisation, c'est-à-dire que petit à petit, en une ou deux générations, disons, l'accumulation du capital fait que il y a, comme on le disait, de nouvelles techniques qui s'imposent, de nouveaux métiers et qui peu à peu se répandent dans toute la société. Par exemple, je ne sais pas, dans une société exclusivement bédouine, chacun fabrique ses propres outils de bois. À partir du moment où des villes, même petites ou moyennes, se constituent, il cite l'exemple d'Alger ou d'Oran, qui à l'époque sont des villes relativement petites par rapport à Tunis ou à Fès, au Maghreb, vous voyez apparaître des menuisiers, des spécialistes du bois, et puis dans les grandes métropoles, peut-être d'ailleurs seulement au Caire à son époque, vous voyez apparaître des ébénistes, c'est-à-dire des gens qui sont capables de travailler le bois avec une, et surtout le métal d'ailleurs, avec un raffinement tout à fait particulier. Donc il y a une sorte de spirale ascendante, en effet, comme vous le disiez très bien, Raleb, il y a une spirale ascendante de l'économie qui n'est brisée que à partir du moment où le luxe des sociétés aboutit à au fait que on se préoccupe que du plaisir et on se préoccupe de moins en moins du réinvestissement des bénéfices de l'économie. Une des limites de la civilisation, c'est l'extraordinaire raffinement qu'elle atteint et qui ne se réinvestisse pas.
Cher Gabriel Martinez-Gros, passons maintenant à une notion fondamentale aussi chez Ibn Khaldoun, du moins je l'ai cru comprendre ainsi, c'est la notion de minorité. Dans un État démocratique, laïque, moderne, comme nous, en théorie en tout cas, comme nous le connaissons maintenant, en principe, c'est le citoyen qui est appréhendé in abstracto de tout autre déterminisme, si ce n'est que d'être un citoyen libre, sujet de droit, et de ce point de vue, il n'y a pas de majorité ou de minorité au sein de cet État, si ce n'est qu'au Parlement, et la minorité s'appelle opposition. Et ça peut changer au gré des alternances démocratiques. En revanche, pour l'État, pour Ibn Khaldoun, l'État peut commencer plutôt avec des gens minoritaires. Et j'en veux pour preuve le témoignage de ce médecin philosophe François Bernier,
oui,
de mémoire né en 1620, mort en 1680 et quelques,
oui,
et qui était chez les Moghols,
voilà,
et qui s'est en Inde, donc sous l'empire moghol, il ne comprenait pas comment on pouvait régir et gouverner une multitude d'hindous, de zoroastriens, je sais pas, couleurs de peau différentes, etc. Et alors, comment se fait-il qu'on est minoritaire, mais on a le pouvoir?
Mais parce qu'on est bédouin.
On est bédouin.
Parce qu'on est bédouin, c'est ça. C'est-à-dire que, naturellement, la société, selon Ibn Khaldoun, est divisée en une infime minorité qui a la violence et donc le pouvoir, parce que le pouvoir va avec la violence, et une immense majorité dont le but est autre, en fait, qui ne vise pas, comme Ibn Khaldoun lui-même d'ailleurs, qui ne vise pas au pouvoir. Parce que c'est ça la grande rupture de sa vie. C'est le moment où il est passé de l'administration de l'État, où il exerçait dans les fonctions civiles, bien entendu, c'est-à-dire les fonctions qui avaient le moins de pouvoir à proprement parler, il est passé à autre chose, c'est-à-dire une distance considérable vis-à-vis des pouvoirs, même s'il a été au Caire juge. Mais pour l'essentiel, au Caire, il enseigne. Et c'est le point le plus important probablement pour lui, et le point le plus important de sa vie, c'est le moment où il s'est détaché du pouvoir, où il a relativement rompu avec le pouvoir. Alors, il y a entre ces deux sociétés, celle de la violence et du pouvoir, et celle de la production, y compris de la production intellectuelle, donc de la réflexion dans laquelle il a vécu dans les 25 dernières années de sa vie, en tout cas presque exclusivement, c'est que cette société sédentaire, elle a un avantage très considérable, même à nos yeux, c'est qu'elle n'est pas du tout racialisée. Elle n'est pas du tout ethnicisée. Dans cette société sédentaire, dans la mesure où le pouvoir n'est pas en cause, Hein, vous n'avez aucune chance d'y accéder, et ça n'est pas un problème en quelque sorte. Chacun est reçu pour la qualité de son inventivité, pour la qualité de pour ses mérites intellectuels, pour ses mérites manuels, pour ses mérites techniques, etc. En revanche, la société dominante est extrêmement ethnicisée. Ce que Bernier dit à propos de l'Inde, hein, c'est-à-dire que...
Il est curieux, ce personnage. C'est un médecin, c'est un philosophe, et qui se trouve à la cour
des Mogols.
Des Mogols.
Oui, c'est un disciple de Gassendi, un homme qui avait fréquenté le collège de Clermont, c'est-à-dire l'actuel lycée Louis le Grand, à peu près à l'époque de Molière. Hein. Il a dû être condisciple de Molière, et il meurt un peu plus tard, parce qu'il a un peu plus de chance, il meurt dans les années 1690, après avoir d'ailleurs aussi amené en France les premières pensées de Confucius, parce qu'il était intéressé par tout ce qui est touché à l'Asie, en fait. Hein. Il savait le persan. C'est avec le persan que il se débrouille en gros en Inde, hein, c'est la langue du pouvoir, et effectivement il est très il vit lui dans le monde entre guillemets des bédouins, c'est-à-dire des hommes de pouvoir, hein, c'est-à-dire fondamentalement une alliance de Turcs, de persans et un peu d'arabes qui dominent la société indienne, l'immense masse de la société indienne.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui nous parlons de l'œuvre d'Ibn Khaldoun en prenant quelques sujets fondamentaux dans cette ontologie avec le professeur Gabriel Martinez-Gros. Gabriel Martinez-Gros nous fait l'amitié et le plaisir de venir nous parler de cette ontologie, et comme il est considéré comme le Khaldounien encore vivant, et que vous ayez longue vie, cher Gabriel Martinez-Gros, pour continuer à nous édifier par notamment par la théorie et avec la théorie khaldounienne, qui d'ailleurs se résume en quatre points. Le premier, c'est que l'État, surtout quand il est un peu dans la phase de son émergence, fonde une société nouvelle en transformant justement les solidarités ou la solidarité agnatique pour une société qui, elle, aspire à la prospérité, à la richesse.
Voilà.
Hein, ça, c'est le premier point.
Ça, c'est le premier point. Hein, oui, le premier point, c'est le désarmement, hein, c'est-à-dire, dans tous les sens du terme, hein, la pacification de la société. L'État est un pacificateur, hein, qui réduit ou abolit la violence qu'Ibn Khaldoun considère comme naturelle des sociétés humaines. Hein. La violence des groupes agnatiques dont vous parliez, c'est-à-dire des clans, des familles, etc. L'individu n'est pas la brique première de la société, c'est la brique dernière. C'est-à-dire, pour Ibn Khaldoun, l'individu, c'est l'État qui le crée. Il le crée en brisant la violence naturelle sociétés humaines, mais c'est-à-dire des sociétés, des briques élémentaires que sont les familles, les clans, etc., ou les tribus. Ce faisant, désarme et il met en danger, il met en position de vulnérabilité ces sociétés, un peu comme si on les privait de leur système de défense naturelle. Oui.
Et le deuxième point, donc, de cette théorie en quatre points, c'est que contrairement à un Hobbes, à un Locke, à un Montesquieu, et même plus tard pour un Max Weber, l'État n'est pas écrasant en tant que tel, c'est pas la toute-puissance de l'État,
voilà.
Hormis l'histoire de lever l'impôt, et ça c'est sa caractéristique propre. Le reste, c'est le mot de vulnérabilité que vous utilisez qui me fait penser à ce deuxième point. C'est qu'il y a quelque chose de paradoxal. Il faut désarmer, mais le fait de désarmer quand on est aux confins, ça donne des velléités, soit d'autonomie, soit de se faire attaquer.
Mais oui, c'est que comme on ne peut pas éradiquer la violence, qu'un homme comme Ibn Khaldoun considère en tout cas comme naturel dans les sociétés humaines, c'est absolument impossible. Il est possible de l'expulser ou de la marginaliser dans le sens le plus strict du terme, c'est-à-dire de la concentrer aux marges de la société, de telle sorte que ces marges de la société servent de fossé de défense, en quelque sorte, à la majorité de la société. Et donc, ces marges sont d'autant plus violentes qu'elles ont reçu, en quelque sorte, toute la violence qui a été chassée du centre, en quelque sorte. On la repousse vers les marges, d'où la difficulté de tenir l'une à côté de l'autre des marges extrêmement violentes et des centres totalement désarmés.
C'est ce qui lui fait dire qu'il y a une faiblesse structurelle de l'État ou quelque chose qui lui est intrinsèque avec ce paradoxe-là.
Oui.
Et ça m'amène à passer au troisième point qui est de ce fait, par moment, le pouvoir central se voit obligé de contracter en quelque sorte une forme de mercenariat pour recourir à une autre forme de violence.
Absolument. C'est le plus souvent ainsi, par des formes de mercenariat, que l'État impérial nourrit la violence qui lui est nécessaire, c'est-à-dire la violence de ses armées, la violence de sa police, mais surtout la violence de ses armées, qui lui est nécessaire pour défendre les frontières. Les exemples sont assez clairs, hein, dans l'histoire des grands empires, dans l'histoire de l'empire islamique, pour prendre l'exemple que Ibn Khaldoun connaît évidemment le mieux. Cette violence, elle a d'abord été celle des Arabes eux-mêmes, bien sûr, hein, au moment de leur conquête. Les Arabes représentent à peine 3-4% de la population des territoires qu'ils ont recouverts, qu'ils ont conquis, entre, disons, la Tunisie actuelle, ou l'est de l'Algérie actuelle, et pratiquement l'Afghanistan, hein, c'est un énorme empire. Et les Arabes sont une toute petite minorité. Ils sont justement cette petite minorité entre guillemets bédouine, mais au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire que les Arabes viennent d'un monde non étatique. Et il s'empare d'un monde étatique pour le faire fonctionner. Et pendant un certain temps, évidemment, ils le font fonctionner au mieux dans la mesure où leurs besoins sont maigres, dans la mesure où ils assurent ce qui est le plus cher dans un État, c'est-à-dire les fonctions de défense, et ils les assurent pratiquement gratuitement, hein, parce qu'ils sont le peuple dominant de l'État. Et donc, dans un premier temps, tout va bien. Et puis, ensuite, peu à peu, les Arabes, ils sont touchés par, dit Ibn Khaldoun, le luxe, c'est-à-dire la sédentarité. Ils s'intéressent de plus en plus aux fonctions civiles de la société sédentaire qu'ils ont conquise. Et donc, l'État islamique doit faire le califat, hein, des Omeyyades et surtout des Abbasides par la suite, doit faire appel à d'autres peuples, hein, plus lointains, pour assurer au centre de l'État, pour assurer les fonctions de violence. Alors ce seront pour l'essentiel les Turcs, à partir du 9e siècle, venant de l'Est, et puis ce sont les Berbères, dans les États du Maghreb, et en particulier en Espagne, hein, dans l'Espagne musulmane, ce sont la Tunisie et l'Est de l'Algérie actuelle, hein, ce sont les premiers États, hein, puisque c'était déjà à l'époque romaine les concentrations de population les plus importantes du Maghreb, hein, c'est l'Est et Al-Andalus et l'Espagne. Et donc c'est là que, pour la première fois, on va utiliser, si je veux dire massivement, ce sont jamais des choses massives puisque ce sont des quelques milliers d'hommes en général, hein, qu'on va utiliser des mercenaires berbères, hein, c'est-à-dire des tribus berbères, hein, tout simplement, qu'on appelle à assurer les fonctions de violence de l'État.
Et le quatrième point, c'est assurément dans l'ordre naturel des choses, ce mercenariat, cet achat finalement de violence pour assurer une sorte de pacification devient de plus en plus cher, ça va obérer les finances publiques, et puis en contrepartie, et à défaut d'avoir des liquidités, ça en offre du luxe pour ces mercenaires. Ça donne une sorte de faiblesse caractéristique de l'État et ça donne naissance à une autre dynastie.
Voilà.
Et c'est le cycle des dynasties.
C'est-à-dire que le système est fait pour ne pas marcher, si j'ose dire, au bout d'un certain temps. Il est fait pour ne pas marcher tout simplement à cause de la, entre guillemets, sédentarisation des forces violentes que l'État contracte. Au fur et à mesure de cette sédentarisation, ces forces sont de plus en plus chères, c'est-à-dire qu'elles exigent une part de plus en plus importante du revenu de l'État, et donc elles perturbe, disons, le mécanisme fondamental de l'impôt, qui est de redistribuer à la société l'essentiel de ce qui est ainsi prélevé. En fait, peu à peu, l'armée, c'est-à-dire l'armée des mercenaires, hein, thésaurise une part de plus en plus importante du prélèvement fiscal et par conséquent gêne la redistribution de l'impôt à la société civile et par conséquent gêne le progrès économique tout simplement ou la prospérité économique. Et donc c'est pour ça, c'est ce que nous disions tout à l'heure de la difficulté de maintenir côte à côte des marges surarmées et des majorités complètement désarmées. Peu à peu, les marges surarmées réclament une part de plus en plus grande, évidemment, du gâteau commun, au détriment de ceux qui ne sont pas armés et qui, de toute façon, ne peuvent pas se défendre, hein, et que les marges surarmées sont supposées défendre. Donc, en fait, l'armée, c'est un phénomène qu'on a bien vu dans l'Empire romain, hein, au 3e, 4e siècle, au fur et à mesure que l'armée s'ethnicise, hein, qu'elle est recrutée dans des poches, dans des alvéoles de violence de plus en plus précises, les Arabes, les Illyriens, les Germains, etc., elle devient de plus en plus chère. Et comme elle est de plus en plus étrangère à l'immense majorité de la population qui travaille, elle a d'autant moins de scrupules à la rançonner, il faut bien le dire, hein, et à la piller, le cas échéant.
Passons maintenant pour les quelques minutes qui nous restent, et c'est passionnant avec vous, Gabriel Martinez-Gros, à la notion de la civilisation qui ne peut être qu'urbaine, en gros, dans la théorie khaldounienne. Et c'est le destin de la ville qui est finalement celui par lequel ce destin-là est lié à la dynastie qui fonde la dite ville. Soit les dynasties s'emparent des villes, soit elles en fondent pour en faire leur capitale.
Voilà, voilà. Alors, la ville, c'est la concentration par excellence, hein, puisque l'État, c'est une concentration de capitaux par le biais de l'impôt, c'est une concentration de population aussi, et ces concentrations s'appellent des villes. Donc, toutes les villes sont des capitales. Hein, fondamentalement, pour Ibn Khaldoun, il n'y a pas de ville, c'est une grande différence avec nous, hein, depuis le 19e siècle, depuis la révolution industrielle, les grandes villes sont toutes des capitales, et très honnêtement,
ce sont des métropoles.
Ce sont des métropoles. L'histoire lui donne raison. Hein. Les grandes villes de l'Empire romain sont toutes des capitales ou ont été des capitales avant de passer sous l'autorité suprême de Rome. Rome, bien sûr, elle-même, Alexandrie, Antioche, Pergame, Carthage. Hein. Voilà, les quatre ou cinq plus grandes villes de l'Empire romain ont toutes été des capitales. Et on ne peut guère se concevoir dans le monde islamique de la même façon, dans le monde islamique médiéval, on ne peut guère concevoir de grandes villes qui n'aient pas été créées par une dynastie, c'est-à-dire par une entreprise politique, qui n'aient pas été une capitale. Et par conséquent, c'est vrai que lorsque la dynastie tombe, et si la dynastie qui suit choisit une autre capitale, eh bien le destin de la capitale antérieure s'en trouve évidemment tout à fait perturbé, hein, effectivement. Ibn Khaldoun cite évidemment des villes qui ont été des capitales, qui ne le sont plus, d'autres qui le sont redevenues après avoir cessé de l'être, Fès par exemple. Hein, Fès est créé par les Idrissides. Voilà, et redevient capitale sous les Mérinides, alors que jusque-là c'était Marrakech. Hein. Et Marrakech, elle-même, est une capitale qui conserve, bien qu'elle soit déchue de l'autorité politique à partir du milieu du XIIIe siècle, qui conserve quelques traits de l'activité sédentaire. Il dit cela aussi pour Tunis, il dit ça pour Constantine, il dit ça pour Cordoue, ou Séville, hein, qui ne sont plus en réalité des capitales, mais qui concernent...
Ils s'étonnent sur le sultanat de Grenade. Ou...
Voilà, voilà, voilà,
aussi.
Absolument.
Nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment, cher Gabriel Martinez-Gros, de nous avoir parlé. Allez, nous avons finalement, pardonnez-moi le terme, butiné,
en tout cas, on a pris
dans votre anthologie quelques thèmes fondamentaux de la théorie d'Ibn Khaldoun. Nous avons parlé spécialement de l'État, très peu aussi de la ville. Mais si vous nous promettez de revenir pour en parler davantage, nous le ferons. Il y a l'idée de consacrer une biographie à Ibn Khaldoun pour nos auditeurs. Nous verrons ça un peu plus tard. Merci,
merci
infiniment
à vous,
de nous avoir donné et du temps et cet appétit, cette appétence à aller apprendre davantage. Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam que vous retrouverez comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.